France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Il fait beau, alors ils ont décidé de venir en terrasse, avec vue sur la plaine de l'actualité, tout ça sans cacahuètes. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Yannick Halimi, bonsoir, du Parisien aujourd'hui en France. Également, alors... On peut l'annoncer maintenant. Voilà, ce soir, la candidate aux législatives. Hein, voilà, Caroline Dehaze, bonsoir, à Paris. Également Bruno Roger Petit, bonsoir, éditorialiste à challenge.fr. Également Paul Quignot, bonsoir, de l'Obs. Et ce soir, nous continuerons à parler de la Ferrand Family, hein, de la loi travail, de la gauche, qui est un petit peu l'exomine. Mais juste avant, nous recevons Laurence Nardon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes responsable, hein, du programme États-Unis à l'Institut français des relations internationales. Et avec vous, nous allons revenir sur la photo du jour. C'était, elle nous vient de Bruxelles. Emmanuel Macron serrant la main de Donald Trump avant discussion. Trump-Macron, eh bien, deux débutants, hein, au sommet de l'OTAN. Alors, ils ne se sont pas trop quittés, ils sont un peu timides, c'est normal, on ne connaît pas trop les autres. Est-ce que vous savez, finalement, Laurence Nardon, ce que chacun a attendu de l'autre, finalement ?
Oui, je pense que, enfin, on n'a pas encore de débrief de ce qu'ils se sont dit. Je ne sais pas si ça va venir, mais enfin, ce qu'on pouvait penser, c'est que chacun arrive avec un dossier qui, à ses yeux, est un dossier important important à discuter avec l'autre, bien évidemment. Pour Emmanuel Macron, il s'agissait évidemment du traité sur le climat, du traité de Paris, de l'accord de Paris. Vous savez que Monsieur Trump a dit qu'il ne savait pas très bien s'il voulait finalement que son pays en sorte ou pas. Il allait prendre sa décision bientôt. Donc c'est vraiment le moment de lui en parler et d'essayer de le faire changer d'avis. D'ailleurs, notre président n'est pas le seul, puisque la fille de Trump lui-même, Ivanka, plaide la cause du traité, ainsi qu'un certain nombre d'industriels de l'énergie aux États-Unis, ExxonMobil pour les pétroliers, mais aussi des industriels du charbon, plaident pour que le pays reste dedans. D'accord. Et de son côté, Trump arrivait aussi avec un dossier qui est très important à ses yeux, c'est celui du terrorisme, puisque c'est vraiment sa cause en matière de politique étrangère. Et il arrive avec un projet pour que l'OTAN s'occupe de manière plus décisive des questions de terrorisme.
Alors Emmanuel Macron a décrit ce déjeuner pragmatique, chaleureux et direct surtout. Direct, c'est un adjectif qui correspond bien à Donald Trump.
Direct, en langage diplomatique, ça veut dire qu'ils n'ont pas trop pris de gants, mais bon, je pense qu'ils en sont sortis entiers. Non, mais c'est vrai que bon, là, on est dans le style, hein, donc c'est pas peut-être pas très important, mais c'est vrai que leur poignée de main était assez virile quand même.
C'est fou comme ça a été commenté par les médias américains. Ils ont même analysé vraiment seconde par seconde.
J'ai vu ça aussi. Ouais.
Alors Laurence Nardon, juste, on sait que Donald Trump en janvier dernier avait critiqué l'OTAN, il avait critiqué l'Union européenne, il avait critiqué Angela Merkel. Il est favorable au Brexit. Là, il est à l'OTAN, à Bruxelles, capitale de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a deux discours chez lui finalement, un discours anti-européen quand il est aux États-Unis et un discours finalement d'allié quand il est en Europe?
C'est plus largement, je crois, que pendant sa campagne, il a dit ce qu'il pensait. C'est d'ailleurs, il a défendu une politique étrangère qu'on appelle très jacksonienne, c'est-à-dire un égoïsme nationaliste, c'est-à-dire qu'on s'occupe pas du reste du monde, surtout pas sur les questions de morale, sauf quand les intérêts des citoyens américains sont en jeu. Donc, par exemple, le terrorisme. Et puis, une fois en poste, ses conseillers le cadrent un peu, mais je pense que les constantes restent là, c'est-à-dire que le terrorisme reste important, l'intérêt des citoyens américains reste primordial, et puis on met peut-être les formes pour parler de l'OTAN ou de l'Union européenne.
Yannick Halimi, c'était ça aussi ce que cherchait Emmanuel Macron, c'était vraiment pour vous, c'est sur le climat, sur la COP21, c'est véritablement un de ses gros dossiers?
Non, tout à fait, hein, vous avez raison. Alors, il faut bien comprendre que le déjeuner était en marge du sommet de l'OTAN, sinon on n'aurait pas trop bien compris.
À l'ambassade américaine, d'ailleurs.
À l'ambassade américaine. Donc, effectivement, hein, pendant ce déjeuner, il y avait, vous avez totalement raison, au menu, si je puis dire, la COP 21, mais il y avait aussi, bien évidemment, d'abord la rencontre de deux hommes. Et juste pour terminer sur le programme, il y avait aussi la lutte antiterroriste, qui est quand même un des piliers
du programme. Vous l'avez dit,
mais je veux dire également de la part d'Emmanuel Macron. Oui. C'est ça que je veux dire. Sinon, c'était la rencontre de deux outsiders, comme chacun aime à le dire. Et c'est surtout deux hommes, notamment Macron, qui s'est présenté, en tout cas, donc, qu'on a présenté pendant la campagne, comme l'anti-Trump. Donc, qu'il y a vraiment deux visions du monde, deux personnalités totalement opposées en termes de personnalité, en termes de programme, en termes de vision du monde, qui se sont rencontrées. Je pense que cette poignée de main est historique.
Alors, Bruno Roger-Petit, Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas européen. Pourquoi a-t-il voulu préciser ça ? C'est parce que c'était un candidat pro-européen pendant la campagne. Il fallait qu'il dise qu'il n'était pas béni oui-oui face à l'Union européenne ?
Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en train de découvrir l'eau froide, parce que toute la campagne, il a été sur cette ligne, c'est-à-dire que c'est un Européen convaincu, mais il est tout à fait conscient, il l'a répété tout au long de la campagne, des difficultés que l'idée européenne, compte tenu de ce qu'est devenu pratiquement l'Europe, perçue comme éloignée, technocratique, etc., il est très conscient de la difficulté qu'ont les Français à considérer que l'Europe demeure et doit demeurer un atout. Mmh. Mais si vous relisez bien tous les discours, je pense notamment au discours de décembre, à la porte de Versailles à Paris, quand il avait dit « il y a trois boucliers qui doivent protéger les Français, le bouclier social ». Un bouclier sécuritaire, police, etc., contre le terrorisme, et le bouclier européen, qui est aussi la condition de l'existence des deux premiers boucliers, et le social et le sécuritaire. Donc il est tout à fait raccord avec ce qu'il a toujours dit tout au long de la campagne électorale.
Alors Laurence, une chose tout de même par rapport à cette politique américaine, finalement, en Europe. Angela Merkel, juste avant d'aller à Bruxelles, a rencontré un homme, c'est Barack Obama. Ça veut dire que, c'est étonnant d'ailleurs, les deux présidents se sont croisés sur le même continent, ça veut dire quand même que dans la tête de certains dirigeants, il y a toujours Barack Obama.
Ah oui, bah ça reste un personnage qui de référence important. Je pense que Trump devait être d'ailleurs furieux entre nous quand il a appris ça, parce que il a certains points de fixation, donc le terrorisme, on en a parlé, mais il y en a un, c'est faire l'inverse de ce que fait Barack Obama, qui a eu, comme vous le savez, beaucoup moins de gens présents lors de son discours d'inauguration. Enfin, il se définit beaucoup par rapport à lui. Mais si je peux parler d'autre chose, il y a sans doute un sujet qui a peut-être été abordé de manière trop discrète aujourd'hui. On va voir ce que ça donne pendant le G7 à Taormina dans quelques jours. C'est le sujet de l'accord de libre-échange transatlantique. Vous savez, le TTIP ou le NAFTA. Ah oui. Donc le Trump... TAFTA. Oui, le Trump a dit pendant toute sa campagne qu'il était contre le libre-échange, donc il voulait sortir de ce genre de négociations. Et les Allemands et les Français sous François Hollande avaient également émis des critiques contre ces négociations. Donc je suis pas sûre que ça ait été relancé, mais c'est important de noter que ce traité est en arrêt de vie aujourd'hui.
J'imagine que ça sera en effet au menu de discussion à partir de demain, notamment en Sicile, voilà, où le G7 se réunit. Fait. Merci beaucoup, Laurence Nardon, d'être passée ce soir aux informés de France Info, l'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
La déclaration de Donald Trump au siège de l'OTAN à Bruxelles ce soir. Le président américain n'a pas apporté les clarifications attendues par ses alliés après ses prises de position remarquées ces dernières semaines sur l'Alliance Atlantique. Donald Trump demande un meilleur partage du fardeau. Selon lui, l'OTAN doit d'énormes sommes aux Américains. Le président appelle aussi les pays de l'Alliance à se concentrer sur le terrorisme et les menaces de la Russie. Emmanuel Macron fait ses premières armes sur la scène internationale aujourd'hui à Bruxelles. Le président français a rencontré ce matin son homologue turc Recep Tayyip Erdogan avant de déjeuner avec Donald Trump. Emmanuel Macron devait rencontrer au total 5 dirigeants en marge de ce mini-sommet de l'OTAN. La République En Marche dépose un recours devant le Conseil d'État au sujet du temps d'antenne attribué au mouvement d'Emmanuel Macron pour ses clips de campagne pour les législatives. La République En Marche ne dispose que de 12 minutes au total pour la diffusion de ces clips, trop faible selon le mouvement. Les partis dits majoritaires sous la précédente législature disposent d'un temps d'antenne allant jusqu'à 2 heures sur l'ensemble de la campagne officielle. Une grosse explosion vers 18h ce soir dans le secteur du château de Vincennes, près de Paris. Pas de victimes, on ne sait pas quelle est l'origine de la déflagration, mais elle a eu lieu dans un entrepôt désaffecté. Il pourrait s'agir d'un squat d'artistes. Les pompiers ont notamment repéré sur place de la poudre d'artifice au sol.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, et maintenant cette question est pendant ce temps-là en Bretagne. Et oui, eh bien, Richard Ferrand est en visite dans le cadre de sa campagne pour les législatives, dans le Finistère précisément. Alors c'est vrai que nous n'avons pas de raison particulière de focaliser sur la 6e circonscription du Finistère, sauf que Richard Ferrand est ministre et taquiné par deux petites histoires. Une concernant sa compagne et une autre son fils. Décidément, on va devoir apprendre les arbres généalogiques de chacun des politiques français. Je vous le rappelle, selon le Canard Enchaîné, les faits remontent à 2011. À Brest, les mutuelles de Bretagne qui souhaitait louer des locaux commerciaux pour ouvrir un centre de soins avait choisi parmi trois propositions celle d'une société immobilière appartenant à la compagne de Richard Ferrand. De plus, on a appris que le député avait employé son fils en 2014, donc dans un emploi d'assistant parlementaire. C'est gênant avec cette bête histoire de loi sur la moralisation sur la vie publique qui arrive. C'est même un peu plus que ça, selon le sénateur maire d'Alfortville, Luc Carvounas.
Je trouve que Monsieur Ferrand a traité cela avec beaucoup de légèreté, en tous les cas vis-à-vis de vous, de la presse, quand il est arrivé un peu cynique, en disant « c'est mon premier cadeau ». Chacun prend ses responsabilités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si Monsieur Ferrand va démissionner ou pas. Ce qui m'intéresse politiquement, c'est que pense, au moment où nous nous parlons, François Bayrou, qui est en train de plancher, d'écrire une loi. Quelle est son appréciation sur l'échelle des valeurs? Je n'entends rien.
Voilà, Luc Carvounas, ce matin sur France Info. Karine Deas, pour vous, est-ce que François Bayrou, ministre de la Justice, doit s'exprimer sur cette affaire?
Moi, ce que je trouve particulièrement frappant, c'est qu'on a le même mécanisme de défense que sur les affaires qui ont émaillé la campagne présidentielle. C'est-à-dire, c'est légal, circuler, il n'y a rien à voir. Comme si le fait que ce soit légal, ça voulait dire que c'était bien. Je vous prends un exemple. Les députés. J'ai découvert récemment que quand vous étiez député élu, vous pouviez acheter votre local de campagne. À la fin des 5 ans de la mandature, vous êtes propriétaire. Donc vous avez acheté un local, tout à fait légalement, avec de l'argent de l'Assemblée nationale, de l'argent public, et vous devenez, à titre personnel, propriétaire des locaux. Bon, bah ça, c'est légal. Moi, je pense que c'est pas bien. Et donc, je trouve que pour un président de la République, Emmanuel Macron, qui se réclamait du renouvellement et de la transparence et de la probité, il faudrait qu'ils aillent un tout petit peu plus loin que simplement dire est-ce que c'est légal ou pas légal, mais est-ce que c'est bien ou pas bien, est-ce que c'est juste ou pas juste qu'on enrichisse sa famille avec des contrats immobiliers quand on est directeur ou président d'une mutuelle.
Paul Quignot, pour vous aujourd'hui, François Bayrou, qui en ce moment travaille justement sur cette fameuse loi sur la moralisation de la vie politique, il doit dire un mot, il doit dire quelque chose à propos de cette affaire?
Oui, il va peut-être le faire d'ailleurs, mais comme il est effectivement chargé de l'écriture de cette loi et qu'il doit le faire rapidement, d'ailleurs je pense que son cabinet a déjà commencé à travailler, ça serait pas illogique qu'il s'exprime. Après, il y a plusieurs choses dans cette histoire. Sur le fond, je pense qu'on peut pas faire l'amalgame quand même avec ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle et notamment avec l'affaire Fillon. Pour une raison simple, c'est que là, pour l'instant, il ne s'agit pas de fonds publics. C'est quand même une grande différence. C'est une transaction d'ordre privé. Et par ailleurs, les sommes en jeu sont quand même pas non plus exactement les mêmes. L'histoire du fils et de son travail, effectivement, c'est légal. Là, pour le coup, c'est un vrai sujet qui est sur la table de la loi que doit écrire François Bayrou. Après, politiquement, effectivement, ça tombe, c'est pas terrible, ça tombe mal. Et moi, je trouve qu'il y a une autre question derrière, c'est que Richard Ferrand est un candidat en vue. Il est ministre. Il a été une des chevilles ouvrières de la campagne de Macron. Et la question, à mon avis, qui se pose derrière, c'est qu'on va avoir énormément de candidats qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas très bien comment le mouvement en marche, comment ils les ont choisis. Et je pense que c'est une question pour le président et ses équipes, c'est que est-ce qu'ils seront à l'abri de surprises une fois qu'on connaîtra ces candidats et qu'on mettra le nez dans leur parcours. C'est une question qui pourrait être compliquée.
Bruno Roger-Petit, vous, sur justement cette affaire aujourd'hui, là, quand on parle de morale, on se souvient quand même de Richard Ferrand qui, au moment de l'affaire Fillon, avait dit que lui, il souhaitait une loi pour interdire les emplois familiaux au Parlement. Bon, là, on se rend compte qu'il était lui aussi victime de cette pratique. Apparemment, c'est un peu embêtant quand même, non?
Ça tombe mal parce que... Mais moi, je rejoins ce que vient de dire Paul Quignot, c'est-à-dire que ça n'a, en termes de gravité, rien à voir avec l'affaire Fillon. Rien à voir. Effectivement, c'est de l'argent privé. Effectivement, l'accord a été conclu entre la mutuelle et l'épouse de Richard Ferrand parmi un choix de candidats dont ils étaient les mieux disants, en termes financiers. Quant à l'emploi du fils, il se trouve que lui, pour ce qu'on en sait, apparemment, d'abord, il était payé, c'était pas le même salaire, c'était pas 7000 euros comme Madame Fillon, c'était le SMIC, ça a duré quelques mois, et il a vraiment travaillé apparemment.
Oui, mais bon. C'est quand même des emplois familiaux.
Mais vous avez quantité de gens dans la société française qui bénéficient de positions plus ou moins privilégiées et qui avantagent leurs enfants. Quel est celui d'entre nous qui n'a pas appelé un copain un jour pour lui trouver un stage dans tel cabinet d'avocat ou telle société, etc. C'est la même chose
moi,
en vérité.
Moi, je l'ai jamais fait.
Parce qu'il est
tout petit. Je pense qu'il faut pas le faire.
Parce qu'il est tout petit.
Je pense qu'il faut pas le faire.
Là, je suis d'accord avec vous.
C'est pas le sujet. Moi, je vous décris l'état de la société tel qu'elle est aujourd'hui.
C'est le cadre de la loi justement aujourd'hui qui souhaiterait interdire ça.
Simplement, on est entré dans une phase où effectivement, le principe s'impose plus que le degré de gravité ou d'implication des uns et des autres dans ce genre d'affaires. C'est-à-dire que la barre est placée aujourd'hui très haute. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal. Ce que je constate, c'est qu'elle est placée très haute. Et je pense que Richard Ferrand aura quelques difficultés. On va voir comment il va passer le week-end politico-médiatiquement parlant. Mais il aura quand même quelques difficultés jusqu'à la fin des législatives.
Karine Dias, vous vouliez répondre?
Ouais, je pense qu'on ne parle pas de la société, là. On parle de personnes qui aspirent à exercer des responsabilités politiques et à mener le pays. Et moi, un homme politique qui dit qu'il ne faut pas employer ses enfants et qui, en fait, le fait en même temps, ça me donne pas envie de lui faire confiance pour mener le pays. J'ai juste l'impression qu'il me prend pour une bille, quoi. Et je trouve ça assez paradoxal.
Moi, quelques centaines au Parlement aujourd'hui.
Hein. Oui, mais ce que il l'a fait. Donc moi, je pense qu'il faut l'interdire. 103. Et moi, par exemple, je vais dire à titre très personnel, il y a un truc que j'aurais pu faire quand j'ai eu mon premier enfant, c'est d'écrire au maire de ma commune pour obtenir une place en crèche. Je connaissais le maire en question. Donc c'était pas illégal de lui écrire. Je savais au fond de moi que si je lui écrivais, bah, j'aurais eu, en fait, un petit coup de pouce. Mmh. Et bah, donc j'ai pas écrit. Et donc, j'ai pas fait. Voilà, j'aurais pu écrire. Bon, bah, je l'ai pas fait. Et je pense que quand vous faites de la politique, quand vous avez envie de participer à mener ce pays, vous devez être plus exigeant que la loi. Vous devez être avec vous-même plus exigeant que la loi. Et le sentiment que j'ai, c'est que Monsieur Ferrand n'est pas plus exigeant avec lui-même que la loi. Et sur le terrain, moi, je peux vous le dire, les gens, ils hallucinent. Mmh. Les citoyennes et les citoyens qu'on croise, ils hallucinent. Eux, ils vont se faire verbaliser pour... récemment, j'ai entendu qu'un mec a été en tôle, s'est pris 2 ans de prison pour avoir volé des nouilles au supermarché. Mmh. Et pendant ce temps-là, on voit ça à la télé. Enfin, il y a un décalage incroyable, quand même.
Jeanne Calimi.
Oui, la loi qui est en préparation, par nature, elle n'est pas encore promulguée. Bien sûr. Et de toute façon, elle n'est pas rétroactive. Mais donc, c'est compliqué de demander... beaucoup d'exigences et une exigence supplémentaire à, même à un homme politique au regard d'une loi qui n'est pas...
Non mais Jeanne Calimi, en fait, c'est vrai que ça fait partie peut-être, Richard Ferrand n'est pas un nouvel élu, c'est aussi, on voit, ce sont des pratiques finalement aujourd'hui courantes, aujourd'hui qui malheureusement...
Oui, les pratiques, on ne va pas refaire l'affaire Fillon, on l'a dit en plus sans vouloir... Non, mais attendez, je n'ai pas terminé, je ne dis pas que Richard Ferrand a raison et d'avoir fait ce qu'il a fait et surtout d'avoir dit... ce qu'il vient de dire, mais je me mets à la place d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait toute sa campagne, enfin, une grande partie de sa campagne, sur la moralisation pour s'opposer à, notamment, François Fillon, mais pas que, mais également au « tous pourris » qui est un peu l'ancienne de l'extrême droite. Et justement, pour se battre et pour battre en brèche le « tous pourris », il a voulu faire cette loi de moralisation pour dire « eh ben, il y a des bons et des moins bons ». Donc je serais Emmanuel Macron, qui doit se trouver au carrefour de 3 injonctions morales contradictoires, son affection, si je puis dire, et sa loyauté vis-à-vis de M. Ferrand. La loi, ça paraît être légal, sans vouloir. Et puis la morale, ça va être compliqué de trouver une synthèse pour sortir de tout ça. Mais moi, si j'avais un conseil à lui donner, j'arrête là.
Mais surtout, ce serait
de ne pas commencer son quinquennat par ce genre de sparadrap qui risque de lui coller. Et donc, je demanderais gentiment à M. Ferrand de tirer des conséquences et de partir.
Justement, on va parler de ça dans un instant. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Une poignée de main ferme et des félicitations au nouveau président français. Emmanuel Macron et Donald Trump ont déjeuné ensemble ce midi à Bruxelles en marge d'un mini-sommet de l'OTAN. Les discussions entre les deux chefs d'État devaient être largement consacrées à l'accord sur le climat et aux crises internationales. Donald Trump a donc félicité son homologue. Vous avez mené une campagne incroyable et remporté une formidable victoire. Un nouveau rebondissement dans le feuilleton Air Cocaïne. Ce soir, la justice dominicaine rejette l'accord conclu le mois dernier entre Christophe Naudin et le parquet. Cet expert en sécurité aérienne est détenu pour son implication dans l'évasion de pilotes français à Saint-Domingue. Les deux pilotes ont été condamnés pour trafic de drogue. Les autorités libyennes disent coopérer étroitement avec la Grande-Bretagne après l'attentat de Manchester. L'auteur présumé de l'attaque qui a fait 22 morts et 65 blessés selon un dernier bilan est un jeune djihadiste britannique d'origine libyenne. Les autorités de Tripoli ont arrêté hier son père. Un frère du kamikaze avait également été interpellé mardi en Libye. Un mot enfin pour les millions de musulmans de France. Le Ramadan commencera ce samedi, mois sacré du jeûne dans l'islam. Le Conseil français du culte musulman qui fixe les dates en France en profite pour assurer, je cite, l'ensemble de nos concitoyens de toutes confessions, de toutes origines et de toutes conditions de ces prières fraternelles pour que notre nation vive dans la paix, l'unité et la solidarité. Fin de citation.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info avec ce soir Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France, Caroline Dehaas, hein, candidate maintenant de son État à Paris, Bruno Roger Petit, éditorialiste à challenge.fr et Paul Quignot de l'Obs. Justement, nous parlons de l'affaire Richard Ferrand actuellement. Alors Paul Quignot, il y a une association, c'est l'association Anticor qui lutte contre la corruption, qui a soufflé des idées à François Bayrou d'ailleurs pour sa prochaine loi, qui a été reçue par lui et qui demande, elle, la démission de Richard Ferrand. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, il faut, pour marquer les symboles, comme le disait Yannick Halimi, pour éviter ces sparadraps et finalement ces références permanentes à cette affaire?
Je sais pas si le président, c'est une décision politique compliquée à prendre, parce que on parle de l'impact politique, parce que ouais. sur le fond de l'affaire, encore une fois, je pense que c'est important de ne pas faire d'amalgame, parce que c'est, je pense que c'est notre rôle d'abord de pas tout mettre au même niveau, et on n'est pas du tout au même niveau que ce dont on a parlé pendant la campagne. Politiquement, bien sûr que ça serait positif, en tout cas c'est une décision compliquée, mais il en tirerait effectivement immédiatement les bénéfices. Est-ce que ça serait un petit peu cher payé pour une affaire qui, pour l'instant, en tout cas, n'est pas...
Cher payé pour qui? Pardon, Paul. Cher payé pour qui?
Politiquement parlant. Parce que ça serait quand même un premier vrai gros caillou dans à peine un mois.
S'il ne demandait pas à M. Ferrand de partir?
Non, s'il le faisait, puisque ça fait à peine trois semaines qu'il a été élu, il devrait se séparer d'un de ses plus proches collaborateurs.
Ah oui, mais là vous terrible. Voyez, ça se gangrène quand même un petit peu. Encore une fois, il n'est pas question d'envoyer Monsieur Ferrand aux assises ou quoi que ce soit. C'est pas le problème, bien évidemment.
Je suis pas sûr que l'affaire prenne une dimension telle qu'il soit obligé d'en arriver
à ce... Je caricature, je dis que...
Alors, juste une chose, on a vu Bruno Roger Petit, les Républicains, demander que le parquet national financier soit saisi. Lui, au départ, n'a pas voulu se saisir d'ailleurs le parquet national financier.
C'est pas compétent, tout simplement.
Et c'est aussi derrière les Républicains, c'est quoi? Parce qu'ils se sont dit, voilà, pendant l'affaire Fillon, on a souffert, donc c'est un coup politique aussi deux semaines avant les législatives.
C'est de bonne guerre, d'une certaine façon, c'est de l'exploitation politique d'un fait dont Paul Quignot vient de nous expliquer deux fois, et à juste titre, qu'il est légalement mineur, quoi qu'on en pense sur le plan moral. Mais finalement, le débat le plus intéressant, c'est Caroline Dehaas qui l'a posé, c'est le rapport entre ce qui est défini aujourd'hui comme légal et ce qui peut être perçu comme posant un problème moral. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Parce qu'il va bien falloir trouver une interface qui satisfasse tout le monde pour sortir de ce genre de situation. Est-ce que l'exigence morale aujourd'hui que nous portons les uns et les autres, ou que la société porte, ou que Caroline Dehaas porte d'ailleurs, est en adéquation avec une société de liberté, je vais te dire tout simple, telle qu'elle est posée par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, article 5, nul ne peut être contraint de faire ce qui n'est pas prescrit, ce que la loi ne prescrit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très gentil de lancer de grands débats moraux, mais il y a un moment où il faudra s'interroger sur la portée des débats moraux qu'on est en train de dresser. Parce que, d'une certaine façon, ça peut déboucher sur un certain nombre d'interdits, comme il y en a aux États-Unis, où la société devient un carcan plutôt qu'une société de liberté.
Vous dites quoi, par exemple, que la nouvelle loi, par exemple, pourrait être un carcan?
Non, pas du tout. Je pense que la nouvelle loi correspond à une demande de la société aujourd'hui, qui est destinée à sanctionner un certain nombre de comportements. Je pense qu'il ne faut pas, justement, amalgamer ce qui était un problème avec François Fillon et qui justifie qu'une loi nouvelle arrive, et puis ce qui est avec Richard Ferrand, qui est un problème de, si on regarde les choses juridiquement, un problème de droit privé entre particuliers.
Caroline Dehaas, on verra s'il y a une plainte, une procédure judiciaire et un procès. Moi, j'ai un regard super différent sur les règles, justement. Et je sens que le fait qu'il n'y ait pas de règles sur tout, que parfois je ne sache pas exactement ce qui est moral, légal, juste ou pas, ça me rend pas libre, en fait, parce que ça me prend la tête. Par exemple, moi, je suis chef d'entreprise. Si je suis élu député le 18 juin, il va falloir que je prenne une décision par rapport à cette entreprise. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a personne pour m'aider. Je ne sais pas quoi faire.
Ce qui est légal ou pas, on le sait. Ouais, sur la morale, c'est effectivement plus compliqué.
Donc d'abord, ce qui est légal n'est pas forcément bien. C'est-à-dire que je peux continuer à me rémunérer par mon entreprise en étant député. Je rappelle que député, c'est plus qu'un temps plein. Donc en fait, ça voudrait dire que je gagnerais de l'argent par mon entreprise légalement sans qu'il y ait aucun problème, alors qu'en fait, j'aurais pas le temps de travailler pour cette entreprise. entreprises. Donc, par rapport aux millions de gens qui cherchent du boulot et à tous ceux qui travaillent pour des clopinettes, ben, je pense que ce serait juste
Vous connaissez les entreprises privées qui acceptent de vous payer si vous ne remplissez pas votre...
Je suis responsable de l'entreprise, donc c'est moi qui décide
si je paye ou pas. En tant que patron d'entreprise,
ouais, c'est bien sûr. Moi, je suis chef d'entreprise en manière professionnelle. D'accord. Je pourrais continuer à me payer. Et donc, moi, je trouve que... Moi, je fais le schéma inverse, c'est-à-dire que plus il y a de règles qui me permettent de savoir où est-ce que je dois aller en tant que responsable politique, plus ça m'offre de la liberté et du temps de cerveau disponible pour penser à autre chose. Voyez. Et pour moi, la transparence n'est en aucun cas un carcan. C'est juste un moyen pour les citoyennes et les citoyens de se réapproprier la politique. C'est plutôt positif.
Paul Quignot, vous vouliez juste... Je pense qu'il faut aussi rentrer dans le détail de l'histoire. C'est qu'après, on ne sait pas encore forcément tout sur ce que savait exactement le conseil d'administration quand il a voté pour... accorder le loyer à la compagne de Richard Ferrand. Donc, est-ce qu'il était au courant, est-ce qu'il n'était pas au courant, c'est une question importante. Sur la question des emplois familiaux, là, je pense que, à mon avis, je vois pas comment François Bayrou ne pourrait pas inscrire l'interdiction d'emplois familiaux dans la loi.
C'est prévu, ça va le faire,
et ça me semble juste parce que c'est même s'il y a des tas de gens aujourd'hui qui font partie de la famille de députés, qui font leur boulot totalement de manière réglementaire, on sait que c'est une porte ouverte à des choses plus compliquées.
Allez, dans un instant, on va parler de la gauche aux législatives qui est pas très, très en forme, et puis on parlera également loi travail. Voilà le programme à suivre des informés de France Info.
Depuis 30 ans, nous partageons tout.
Des moments forts.
La France, pour la première fois de son histoire, championne du monde de football.
Des moments historiques.
Il fallait entendre les hurlements de joie des milliers d'Allemands de l'Ouest massés à la porte de Brandenburg ou à Checkpoint Charlie.
Des moments de votre quotidien.
On est parti, le 7-9 est ouvert, bienvenue, il est 7h.
Le 1er juin,
France Info fête ses 30 ans
et partage son antenne avec vous. Partagez dès maintenant vos souvenirs d'info,
vos souvenirs de France Info,
sur les réseaux sociaux avec le hashtag MonFranceInfo.
Vous serez peut-être sélectionné pour les raconter à l'antenne.
Hashtag MonFranceInfo.
France Info, 30 ans.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Les conditions vont rester estivales demain et c'est à nouveau le soleil qui s'imposera sur la majeure partie du pays dans une ambiance de plus en plus chaude. Au petit matin, le mercure affichera entre 12 et 20 degrés et l'après-midi, les maximales gagneront encore quelques degrés, grimpant entre 25 et 34 degrés. Côté ciel, les nuages se feront très discrets. Néanmoins, en matinée, le vent marin venu de la Méditerranée va apporter des nuages bas sur les côtes du Languedoc et quelques nuages se feront aussi remarquer sur les Alpes et la côte ouest de la Corse. Demain après-midi restera largement ensoleillé, mais au sud de la Garonne, des nuages bas vont apparaître sur le littoral aquitain et le ciel va se voiler. En fin de journée et en soirée, ce voile nuageux pourrait même donner des ondées, voire des orages sur les Pyrénées. Sur les Alpes, une petite averse n'est pas à exclure.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Alexandra Dubouchereau. Bonsoir.
Bonsoir. 28 dirigeants réunis à Bruxelles cet après-midi. Mini sommet de l'OTAN en présence d'Emmanuel Macron, bien sûr, qui prend son premier bain international. Et surtout en présence de Donald Trump, le président américain, était très attendu par les dirigeants européens de l'Alliance Atlantique. Eh bien, non seulement ces derniers n'ont pas eu les clarifications qu'ils attendaient sur sa remise en cause du principe d'entraide mutuelle, article 5 de la charte de l'OTAN, mais en plus, Donald Trump a reproché aux alliés de ne pas s'impliquer suffisamment dans l'OTAN en termes financiers. À Bruxelles, les explications de Quentin Dickinson.
Donald Trump n'a guère caché qu'il voulait plus d'argent de la part de ses alliés européens, qu'il croit redevable de sommes énormes aux contribuables américains. Il a expliqué sans ménagement, ce qui n'a pas manqué d'agacer ses homologues, qui n'ont cependant pas voulu l'indisposer en s'en formalisant publiquement. Selon plusieurs sources, un seul Européen lui a expliqué franchement son désaccord en tête-à-tête. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Le fond de l'affaire, c'est que les pays de l'Alliance Atlantique se sont engagés à dépenser pour leur défense au moins 2% de leur PIB. Mais c'est un repère aujourd'hui inadapté qui ne tient pas compte des opérations militaires menées par quelques-uns et profitant à tous, ni du nombre de militaires morts ou blessés au cours de celles-ci. La règle des 2% aboutit à sacrer l'Estonie, meilleur élève de la classe, et la France, loin derrière, ce qui ne reflète évidemment pas les réalités de terrain. Pour Donald Trump, dépenser plus, c'est aussi pousser ses alliés à acheter en masse du matériel militaire américain, alors que le secteur militaro-industriel en Europe a grandement besoin de se rationaliser. Pour le reste, Donald Trump n'a pas insisté, comme l'espéraient ses interlocuteurs, sur la solidarité automatique entre alliés. Il s'est borné à leur dire de se méfier de la Russie et de combattre le terrorisme. Au QG de l'OTAN, Quentin Dickinson, France Info.
Et vous l'avez entendu, Emmanuel Macron s'est entretenu directement avec Donald Trump tout à l'heure. Un déjeuner de travail franc et chaleureux, selon le président français. Emmanuel Macron a aussi rencontré son homologue turc à Bruxelles. Les deux hommes ont notamment évoqué le sort du photojournaliste français Mathias Depardon, emprisonné depuis 18 jours en Turquie. Recep Tayyip Erdogan promet d'examiner rapidement sa situation. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson se rendra à Londres demain par solidarité avec les victimes de l'attentat qui a fait 22 morts à Manchester lundi soir. C'est ce qu'annonce le ministère britannique des Affaires étrangères. L'OPEP prolonge de 9 mois ses quotas de production de pétrole. Décision prise à la mi-journée par les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole réunis à Vienne. L'objectif étant toujours d'abaisser les réserves mondiales d'or noir pour faire remonter les cours du baril. Il y a du barrage ce soir en football. Barrage aller entre 3, le 3e de Ligue 2, Lorient, le 18e de Ligue 1. Coup d'envoi dans 1h à 21h. Le retour est programmé dimanche et celui qui remportera le barrage sera en Ligue 1 la saison prochaine. C'est le retour des informés avec Jean-Mathieu Pernin sur France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils prennent le frais, voilà, sur le haut plateau de l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Jeannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France, la candidate aux législatives à Paris, Caroline Dehaas, Bruno Roger Petit, éditorialiste à challenge.fr et Paul Quignot de l'Obs. Alors, c'est étonnant, peut-être que vous l'avez vu, hein, comme en rencontrant Donald Trump, Emmanuel Macron avait l'air beaucoup plus détendu que lors de son face-à-face cette semaine avec Philippe Martinez, le leader de la CGT. On ne sait pas pourquoi, mais en début de semaine, il y avait comme une petite crispation au départ entre les deux hommes, une petite tension nommée, eh bien, loi travail. Et oui, c'est parti pour les consultations afin, c'est le souhait du président de la République, aller plus loin que la loi El Khomri, une modification du code du travail et quelques idées différemment accueillies par les syndicats, mais tous sont d'accord sur une chose, ils s'opposent au plafonnement des indemnités prud'homales. Une réforme du code du travail qui pourrait amener une tension sociale dans le pays. Été oblige, les manifestations se feront peut-être à Paris-Plage, à côté de la piscine à boules. Et les opposants d'hier, eh ben, sont ceux d'aujourd'hui, comme Jean-Luc Mélenchon.
Son intention est claire, il veut remettre en cause ce code du travail. Et dans un sens qu'on connaît, c'est du plus-plus, loi El Khomri.
Il n'y a rien à garder dans ce projet de réforme. Tout est acheté.
Oui, absolument. Non, mais tout est acheté. D'abord, connaissons la réforme. Pourquoi me dites-vous cette réforme? De quoi parle-t-on? Si c'est de ce dont je parle, oui, tout est à jeter.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon, donc, sur RTL. Et c'est marrant parce que les favorables d'hier, même un peu grognons, eh bien, sont les favorables d'aujourd'hui. Comme Thibault Langsade, il est président du pôle entrepreneuriat et croissance du MEDEF.
C'est-à-dire qu'on voit bien que la loi El Khomri, elle a duré plus de 6 mois. Ça a été difficile dans un contexte politique complexe. Oui, probablement maintenant, il y a une forme de maturité pour pouvoir réformer ce code du travail et d'aller vite parce que les entreprises attendent. Il faut faire en sorte que ça puisse être effectif le plus tôt possible car la croissance est là et maintenant on pourrait bénéficier de ce regain dynamique avec un code du travail plus flexible, plus souple que demandent les entreprises.
Voilà, Thibault Langsade sur France Inter, donc hier. Alors, en me tournant vers vous, Caroline Dehaas, j'ai l'impression d'être dans Un jour sans fin. Le film, vous savez où ça recommence, puisqu'il y a un an, pile un an, vous étiez là déjà à parler de cette loi travail. Là, j'ai vu que vous aviez réactivé justement votre pétition contre la loi travail. C'est-à-dire que pour vous, c'est le même combat? La même chose, la loi El Khomri.
En fait, on a réactivé le site internet loi-travail.lol sur lequel les internautes peuvent aller demander à Emmanuel Macron de ne pas passer par ordonnance. Parce que c'est la première bataille pour moi importante. C'est le premier problème, en fait, du projet d'Emmanuel Macron. C'est un problème de méthode. Il veut passer par ordonnance. Alors, au début, c'était pendant l'été. Maintenant, c'est au mois de septembre. C'est-à-dire, en gros, priver le Parlement d'un débat parlementaire avec des amendements. C'est notamment à travers les amendements parlementaires qu'on avait réussi à adoucir un tout petit peu la loi travail numéro 1 et que pendant les 5 ans du quinquennat Hollande, on a réussi, par exemple, à sauver les outils de l'égalité professionnelle.
Et vous avez vu que tous les syndicats ne sont pas contre, finalement, ces ordonnances. Enfin, par exemple, il y en a certains, Laurent Berger ou Jean-Claude Mailly, par exemple, aussi, a dit, bon, bah, ces ordonnances, c'est pour eux,
ouais, je comprends pas cette position, parce que je pense que des ordonnances, ça veut dire qu'on va éviter un débat politique à l'Assemblée et donc dans le pays sur le sujet. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, il y a un problème de fond, notamment avec le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. En gros, on explique aux chefs d'entreprise que une fois qu'ils voudront licencier sans cause réelle et sérieuse, donc licenciement illégal, ils auront un petit ticket maximum à payer. Puis le troisième problème, quand même, c'est un problème d'efficacité. J'entendais le responsable du MEDEF là expliquer que les entreprises attendaient ça, mais je ne sais pas dans quelle entreprise ils travaillent. Moi, je suis dans une TPE. On s'est mangé 5 réformes du code du travail pendant le quinquennat. 4 réformes du code du travail pendant le quinquennat. 4 réformes, il faut quand même les digérer. Et donc là, si on nous remet une nouvelle réforme du code du travail, mais les entreprises elles vont pas pouvoir suivre dans l'application.
Et Paul Quignot, je voyais ne pas tellement être d'accord
sur les ordonnances. Non, je suis pas d'accord parce que d'abord tout simplement parce que c'est un outil constitutionnel. Donc s'il est là, c'est pour qu'on puisse s'en servir ou pas. Donc c'est un choix politique de s'en servir. Donc qu'on soit contre par principe, je trouve ça curieux. Voilà, c'est un outil. Et par ailleurs, il y a eu des choses formidables qui ont été faites par ordonnance. Quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, on a eu les 39 heures, la cinquième semaine de congés payés qui ont été établies par ordonnance. Donc sur le principe, c'est une position que je comprends pas. Après, sur le fond, c'est vrai que le débat va être déterminant. Au-delà de ce qu'il y aura dans le texte, ça sera un élément de température crucial sur ce que pourra faire Emmanuel Macron et sur sa capacité à réformer ou pas le pays. Et ça sera d'autant plus compliqué qu'il y a un point central dans la réforme contre lequel la CFDT reste vent debout, c'est celui du plafonnement effectivement des indemnités prud'homales. Et c'est là où pour l'instant, je vois pas quelle petite porte il va pouvoir prendre.
Bruno Roger Petit, est-ce que finalement Emmanuel Macron comme Édouard Philippe ont appris de Manuel Valls et de François Hollande, c'est-à-dire faire ça en début de quinquennat, ne pas attendre la fin, discuter plus longuement peut-être.
C'est pas seulement ça, c'est respecter la tradition française du dialogue social, c'est-à-dire la question de l'ordonnance, des ordonnances, effectivement, c'est pas le vrai débat sur la méthode. La vraie méthode, c'est de respecter la grande liturgie sociale à la française, où avant de déboucher sur une grande loi de réforme sociale, il faut passer des semaines à discuter les uns avec les autres. Président de la République, Premier ministre, partenaires sociaux, à écouter tout le monde, à négocier. Et ensuite seulement, on va au Parlement. Et peu importe à ce moment-là que ce soit une loi discutée article par article ou un projet de loi d'habilitation, parce que de toute façon, le gouvernement sera obligé de dire ce qu'il va mettre dans son projet de délégation législatif, et les parlementaires voteront en fonction de cela. Donc c'est pas la question. La question, c'est qu'il fallait éviter déjà sur la méthode ce qu'avait fait Manuel Valls, effectivement, c'est-à-dire d'entrée de jeu, dire de toute façon il y aura 49-3 et si vous circulerez, il y aura rien à voir. C'était ça qui avait déclenché le pataquès. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Là, on est dans un cadre traditionnel français. Donc je ne sais pas si à l'arrivée, les uns et les autres seront contents, mais bon, la CFDT est plutôt favorable, FO est plutôt favorable, et effectivement, il y a un blocage sur l'histoire, et ça, on peut le comprendre, parce que c'est quand même un peu fort de café, sur l'histoire du plafonnement des indemnités
licenciement. Qui ont déjà été retoqués, faut dire.
Oui,
déjà.
Mais Emmanuel Macron, visiblement, a l'air d'y tenir. Mais bon,
vous savez, c'est des hobbies comme ça.
Je pense qu'il n'est peut-être pas impossible que ça fasse partie des choses qu'on peut lâcher en cours de route.
Yannick Halimi.
Ça vous étonne pas que on ne parle pas d'une autre mesure qui avait mobilisé, Caroline Dehaas, je parle sous votre contrôle, mais enfin, j'en suis à peu près sûre, qui avait mobilisé tous ces ces centaines de milliers de gens au printemps dernier, qui est la fameuse inversion des normes. Voilà, qui est toujours à l'ordre du jour, en tout cas dans le projet de loi tel qu'on le connaît. Et là, on n'en parle plus. C'est curieux. Je veux dire par là que, si j'ai une minute ou pas.
Alors, un petit peu, on va y revenir dans un instant, Janine, mais trouve que vraiment, vous avez une particularité de plus en plus responsable par rapport au micro. C'est incroyable.
Vous faites toujours parler à la dernière
exactement,
minute.
Exactement, je ne sais pas. Mais là, vous allez pouvoir parler, ça va être incroyable. Allez, l'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
La fin du mini-sommet de l'OTAN à Bruxelles. Donald Trump et Emmanuel Macron participent à leur premier sommet de l'Alliance depuis leur arrivée au pouvoir. À son arrivée ce soir, Donald Trump a déclaré que l'OTAN devait se concentrer sur le terrorisme, l'immigration et les menaces de la Russie. Le président américain dénonce également les pays de l'Alliance qui doivent d'énormes sommes d'argent selon lui et réclame un meilleur partage du fardeau entre les membres. Ce sont ses mots. Avant sa rencontre avec le président américain qui l'a félicité pour son élection, Emmanuel Macron a eu une entrevue ce matin à Bruxelles avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux hommes ont évoqué le cas de Mathias Depardon, ce journaliste français emprisonné en Turquie depuis plus de 15 jours. Tayyip Erdogan a promis qu'il examinerait rapidement sa situation. Les arrestations et détentions de journalistes occidentaux se sont multipliées ces derniers mois en Turquie. La République En Marche dépose un recours devant le Conseil d'État au sujet du temps d'antenne attribué au mouvement d'Emmanuel Macron pour ses clips de campagne pour les législatives. La République En Marche ne dispose que de 12 minutes au total pour la diffusion de ces clips, trop faible selon le mouvement. Les partis dits majoritaires sous la précédente législature disposent d'un temps d'antenne allant jusqu'à 2 heures sur l'ensemble de la campagne officielle. Après l'attentat de lundi, les deux clubs de foot de Manchester, Manchester United et Manchester City, annoncent qu'ils vont contribuer à hauteur de plus d'un million d'euros à un fonds d'aide aux victimes, fonds d'urgence mis en place en partenariat avec la Croix-Rouge.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info, nous parlons après la moralisation de la vie politique, l'autre grand chantier véritable, et c'est là où véritablement on va rentrer dans le dur du gouvernement, ça sera bien sûr cette nouvelle loi travail. Jeannick Halimi, je vous ai chippé vos paroles tout à l'heure, alors je vous en prie, donc vous parlez justement, vous, de ce sujet qui avait tellement fait couler d'encre, la hiérarchie des normes pendant la loi El Khomri, donc là on est reparti.
Je ne sais pas, en tout cas, les syndicats, on est reparti sur quoi? Sur une mobilisation à venir?
Est-ce que ça va mobiliser autant, d'après vous?
Moi, juste quand même une petite parenthèse liminaire. Thibault Langsade, que vous avez fait parler, il était pressenti pour entrer au gouvernement même quelque chose. C'est un patron particulier qui est macro-compatible. Oui, il était pressenti pour entrer au gouvernement de monsieur Philippe. Bref, finalement, ça n'a pas été le cas. Non, moi, ce qui me semble peut-être s'ouvrir. Je pense que au moment des circonscriptions des législatives, on avait eu une sorte de terrain de jeu de la méthode Macron. Je pense avec des individus. Je t'en donne 50, je te donne 50 au Modem, le Modem en veut 90, finalement on tombe d'accord sur 60 ou 70 et puis on fait entrer Marielle de Sarnez au gouvernement par la même occasion. Je pense que la loi El Khomri, je pense que ça va être ça. C'est ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire être droit dans ses bottes, présenter un projet que tout le monde connaît, y aller par ordonnance pour dire qu'on veut aller vite. Il commence déjà à lâcher du lest, comme vous le disiez, et Martinez le disait, le patron de la CGT, Madame Haas, mais Martinez l'avait dit, on va glaner un mois supplémentaire. Et je pense que ça va être sa méthode à la jésuite, c'est-à-dire très casuistique. Et il va lâcher quelques petits trucs. Les syndicats vont en obtenir aussi.
Ça s'appelle une négociation, en fait.
Oui, absolument, mais du win-win-win-win. Oui, c'est... d'une négociation, mais enfin, alors, là, qui partait quand même sur une question liturgie. Générale, sur une question que générale, qui était, est-ce qu'on va au blocage? Et je pense que ça va être sa façon à lui de tenter de sortir des blocages, parce que quand même, on va dans des positions totalement opposées entre les uns et les autres. Ça va être du donnant, en espérant du win-win.
Caroline Dehaas, qu'est-ce que vous en pensez justement de ça, vous? Ces négociations...
Je ne sais pas si vous avez vu la séquence filmée par les journalistes du Quotidien, qui filme Emmanuel Macron entouré de Le Drian et puis d'autres ministres ou conseillers. Et il leur raconte, il n'a pas vu qu'il y avait un micro, et il leur raconte la séance avec les syndicats. Il dit, j'ai reçu les syndicats, c'est bien passé. Et là, Le Drian lui dit, et donc, je sais pas quoi, Le Drian lui pose une question qu'on n'entend pas. Et là, Emmanuel Macron, de toute façon, je leur ai presque rien dit, quoi. Et là, Le Drian dit, attention, il y a un micro. Et donc, le dialogue social, faut pas se moquer du monde, quoi. La réalité, c'est que si c'est le dialogue social, c'est simplement recevoir en tête à tête les syndicats, c'est pas du dialogue social. Le dialogue social, c'est de la négociation, c'est des échanges, c'est de la confrontation, c'est une tentative de
préciser. Il n'a pas conscience de ça, et que s'il continue à faire ce que vous dites, c'est-à-dire le mutique, il ne prend pas le risque de voir tous les gens à l'automne, voire peut-être cet été, j'en sais rien, mais enfin à l'automne descendre dans la rue.
Vous savez, moi,
qu'il en est totalement conscient.
J'en sais rien, parce que j'ai été tellement, moi, impressionnée l'an dernier de la déconnexion d'un certain nombre de responsables politiques par rapport à cette question de la loi travail, c'est-à-dire qu'ils avaient, en fait, pour la plupart d'entre eux, alors c'est pas le cas d'Emmanuel Macron, mais pour la plupart d'entre eux, ils ont quand même quasiment jamais travaillé dans le privé. Et quand ils ont travaillé dans le privé, ils n'ont pas travaillé à des postes où ils avaient 50 hiérarchies au-dessus d'eux qui pouvaient potentiellement les mettre dans des situations de stress. Et donc, quand on parle du code du travail, la plupart de ces gens-là, mais en fait, ils savent pas ce que c'est, parce qu'ils ont jamais été confrontés à ça. Et donc, ils se rendaient pas compte de à quel point ça touchait notre identité sociale, quoi. C'est-à-dire notre travail, notre quotidien.
Ça touchait à ça, et ça touchait au pouvoir.
C'est pour ça que c'est intéressant, cette question des ordonnances. Moi, c'est pas tant sur le principe, encore que c'est pas parce que c'est dans la Constitution que c'est forcément bien, mais c'est parce que ça touche quelque chose qui va changer notre quotidien. Et ça mérite un débat parlementaire.
Paul Quignot et après Bruno Gibetti. Paul Quignot.
Juste par rapport à ce que vous disiez sur le fait que Emmanuel Macron a dit visiblement qu'il n'aurait pas dit grand-chose. En une heure, j'imagine quand même qu'ils se sont dit des choses. Et évidemment qu'il n'a pas livré son plan de bataille et dit sur quoi il allait céder à la première heure de discussion, en sachant qu'en plus, dès le lendemain, ils ont été reçus par le Premier ministre et que la phase de négociation démarre. Ça va être long, ça va être compliqué. Il a déjà quand même pas fait la bêtise qui aurait pu être compliquée de dire voilà, on va faire ça pendant l'été. Et à ce moment-là, je pense qu'effectivement, la rentrée aurait été socialement compliquée. Oui. Voilà, donc on va être dans une négociation à la française, comme le disait tout à l'heure Bruno Roger Petit.
Bruno Roger Petit,
justement. Oui, deux remarques. Il se trouve que j'ai vu aussi la séquence de Quotidien. Mmh. Alors, évidemment, chacun interprète en fonction... Bon, moi, j'ai compris que c'était une boutade qui signifiait « je me suis pas trop engagé » et par conséquent, le jeu reste ouvert. C'est ça que ça voulait dire. Bon, c'est pas non plus le drame que décrit Caroline De Haas avec beaucoup de talent. Puis, une deuxième observation. Il y a eu un débat l'an dernier, il y a eu des mouvements de rue, parfois violents. Et puis, il y a eu derrière une élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, elle a donné un résultat quand même très clair. C'est-à-dire que les gens, on va dire dans le camp progressiste, de gauche, de centre-droit, du centre, ils ont voté Emmanuel Macron. Et ils l'ont mis devant au premier tour de l'élection présidentielle. Ils n'ont pas mis Benoît Hamon, qui a naufragé le Parti socialiste à lui tout seul, avec ses petits camarades. Et ils n'ont pas mis non plus Jean-Luc Mélenchon. Donc, Caroline, moi j'entends tout ce que vous dites. Je constate aujourd'hui que ce n'est pas majoritaire dans le pays. C'est pas majoritaire dans le pays. Il y a eu un choix qui a été fait par les Français. Et je pourrais aussi rajouter, d'une certaine façon, ceux qui voulaient réformer le Code du Travail, encore plus violemment que ne veut le faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire les Républicains.
Donc, vous croyez que tous les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron sont d'accord avec la réforme du Code du Travail ?
Non, il y a un premier tour
de l'élection. Je peux vous le dire, non. Moi, j'en croise tous les jours.
Il y a un premier tour de l'élection présidentielle qui a apporté son verdict. Dans le camp du progrès, entendu au sens large et sous réserve des différences entre les uns et les autres, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé devant.
Oui, mais moi, j'ai croisé aujourd'hui trois personnes en une journée, et j'en croise tous les jours, qui m'ont dit « j'ai voté Macron au premier tour, mais j'avais signé votre pétition ».
Mais oui. 3 personnes, donc, c'est pas un sondage.
Il y a 70%, il y a 70% des Françaises et des Français qui sont opposés aux ordonnances. Il y a 70% des Françaises et des Français qui sont opposés au plafonnement des indemnités patronales en cas de licenciement abusif.
Je ne sais pas d'où vous sortez le chiffre de 70% des Français opposés aux ordonnances.
Bah, Il y a eu un sondage récemment qui est sorti. Et donc, c'est pas parce que les gens ont voté pour Emmanuel Macron à un peu plus de 20%, ça, 24-23% au premier tour, qu'ils ont signé un chèque en blanc pour 5 ans sur sa loi de travail.
Arrêtez aussi de décrédibiliser en permanence ce score de 24%. Benoît Hamon a fait 6.
Et moi, j'ai pas voté Benoît Hamon, donc je ne me sens pas concerné par ce score-là.
Il n'y avait pas de candidat écologiste et Jean-Luc Mélenchon a fait 19.
Alors, Jenny Kalim.
Je suis d'accord avec vous sur la légitimité, bien évidemment, d'Emmanuel Macron à la sortie des élections et le fait aussi qu'ils doivent aller très vite pour pouvoir bénéficier de cette crédibilité et de cette dynamique. Et contrairement à François Hollande avec... la loi El Khomri, lui, l'a annoncé pendant la campagne, lui, Emmanuel Macron. Ça, c'est une chose. Là où je me distancie un petit peu de vous, Roger
Paul. Je vous
en prie. Bruno Roger
Petit. Non, pas Roger Paul Droit.
Pardon. Oh là là, je me trompe toujours sur les noms et les prénoms. Allez-y. Pardonnez-moi.
C'est le masqué ici.
C'est qu'il y a quand même une partie de la France qui a voté Jean-Luc Mélenchon, qui a voté aussi Benoît Hamon et surtout qui s'est abstenu. On sait quand même qu'il y a une partie de gens. Je parle même également d'une partie des électeurs de Marine Le Pen, oui. Il ne faut pas les oublier, bien évidemment.
11 millions de personnes.
Et donc il y a cette partie-là, alors je ne sais pas s'ils sont prononcés contre la loi, la réforme du Code du Travail, mais enfin ce sont des catégories quand même bien particulières. Et ce sur quoi devrait, et commence d'ailleurs à insister Emmanuel Macron, c'est sur le côté sécurité de son projet de flex sécurité. Donc il faut qu'il développe beaucoup dans sa réforme du Code du Travail, parce qu'il en a le volet sécurité et qu'il l'explique, enfin sécurité en tout cas à la Macron, si je puis dire, et qu'il explique très très bien à ces catégories de gens qui ne votaient pas spontanément pour lui.
Allez, on va parler encore un tout petit peu de politique. Dans un instant, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Theresa May furieuse des nombreuses fuites dans la presse dans l'enquête sur l'attentat de Manchester. La première ministre britannique pointe très clairement du doigt les services américains et demande à Donald Trump que les renseignements partagés entre la Grande-Bretagne et les États-Unis restent confidentiels. Réponse du président américain cet après-midi en marge du sommet de l'OTAN. Je veux poursuivre les auteurs de ces fuites. À Bruxelles, Emmanuel Macron a rappelé à Donald Trump l'importance de l'accord de Paris sur le climat. Lors d'un déjeuner entre les deux chefs d'État, le président français a dit à son homologue que son souhait était qu'il n'y ait aucune décision précipitée des États-Unis sur le sujet. Donald Trump a également félicité Emmanuel Macron pour sa campagne incroyable et sa formidable victoire à la présidentielle en France. Tout à l'heure, le président américain a également appelé ses partenaires de l'Alliance Atlantique à se concentrer sur le terrorisme et les menaces de la Russie. L'ancien Premier ministre grec Papademos, gravement blessé par l'explosion d'un engin dissimulé dans une enveloppe à Athènes. Loukas Papademos a été chef du gouvernement grec pendant un peu plus de 6 mois, de 2011 à 2012, et ancien gouverneur de la Banque de Grèce. Il a été conduit à l'hôpital avec son chauffeur, également blessé. Et puis le Pentagone revient sur son premier bilan. Ce soir, l'armée américaine reconnaît avoir tué au moins 105 civils dans un bombardement sur Mossoul en mars dernier. Le raid visait un bâtiment rempli d'explosifs par les djihadistes dans la deuxième ville d'Irak.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, alors c'est le pont de l'Ascension, il fait beau, on a envie de sortir, on rencontre, mais il faut penser à ceux qui sont aussi dans la déprime en ce moment, et c'est le cas de beaucoup d'électeurs socialistes, autant vous le dire, la déprime a gagné, hein, la rue Solferino et les pontes du PS, ainsi Martine Aubry au cours d'un point presse repris par le quotidien La Voix du Nord a dit, je cite hein, Martine Aubry, j'ai 66 ans et j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans ma vie est abîmé, cassé, tout ce à quoi j'ai cru. Voilà, ambiance. Hein. Elle tacle ensuite Emmanuel Macron, s'en prend à Jean-Luc Mélenchon en rappelant que le vote utile serait PS, mais ça ne va vraiment pas fort et le premier secrétaire du PS tente de mobiliser ses troupes. Pas de panique, tout ça, c'est conjoncturel. Faut juste attendre, Jean-Christophe Cambadélis.
Le PSOE est en crise. Le Parti démocrate italien est en crise. Le Parti travailliste anglais est en crise. Le SPD ne réussit pas. Ce que nous avons vu aux États-Unis entre Madame Clinton et Bernie Sanders a amené à une défaite. Donc il y a un problème franco-français, évidemment, mais il y a un problème beaucoup plus large sur ce qu'est le courant progressiste.
Ne me dites pas que... Voilà, Jean-Christophe Cambadélis sur Radio Classique. Bruno Roger Petit, je ne vous ai pas vu tellement convaincu par l'explication de Jean-Christophe Cambadélis là sur. C'est pas conjoncturel, ça ne dépend pas véritablement. Il n'y aurait pas finalement tous ces partis socialistes que l'on voit, enfin les partis réformistes, pardon, en Europe.
Il y a une crise, comme on dit, de la social-démocratie dans toutes les grandes démocraties européennes. Ça, c'est une réalité. Simplement, ce qui se passe en France, ce qui s'est déjà passé en Grèce, c'est que nous sommes en train d'assister, c'est un choc historique considérable, à la probable disparition du Parti Socialiste. Ça, c'est une réalité politique. L'Assemblée législative qui va venir, où il ne restera probablement que 20, 25, peut-être 30, 40 députés socialistes, on verra bien, va marquer ce moment. Il n'y a plus de parti socialiste parce que, regardez, vous avez des candidats socialistes qui se disent de la majorité présidentielle. Vous avez des candidats du Parti socialiste qui se disent « Non, moi je suis Macron ». Vous avez des candidats du Parti socialiste qui soutiennent des candidats communistes contre d'autres candidats du Parti socialiste. Vous avez des candidats du Parti socialiste qui se disent « Je serai dans l'opposition de gauche ». Donc vous avez là, sous vos yeux, avec ces législatives, le résultat de 15 ans de déshérence complète du Parti Socialiste. De 2002 à 2012, on n'a rien fait. Si on a un petit peu planté Ségolène Royal, parce qu'il ne fallait pas que ce soit elle qui gagne l'élection présidentielle. On n'a rien fait en se disant en 2012, on va récupérer le bébé gentiment, c'est ce qui s'est passé. Mais comme rien n'avait été travaillé, rien n'avait été préparé, comme il n'y avait pas eu de mise à jour idéologique profonde du Parti Socialiste, il s'est passé ce qui s'est passé dans l'exercice du pouvoir. Des contre-élections qui ont éclaté, où vous vous retrouvez avec d'un côté Gérard Filoche et de l'autre Manuel Valls. Et donc ce n'est plus viable. Et c'est ce système-là qui meurt aujourd'hui sous nos yeux.
Et Karine Delasse, est-ce que c'est ça aussi, en dehors du quinquennat finalement de François Hollande, en dehors de cette élection présidentielle terrible pour l'EPS, est-ce que c'est aussi ce que vient de dire Bruno Roger Petit, ça veut dire une réflexion sur le Parti Socialiste, sur son logiciel, sur ça qui n'a pas été fait et voilà pourquoi il se retrouve aujourd'hui crédité de 6 à 7% dans les sondages pour les législatives.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'ils ont fait leur mise à jour. Le seul problème, c'est qu'ils ont enlevé le socialisme en faisant la mise à jour. Ils ont fait une mise à jour et ils sont devenus un parti de centre-droit, un parti libéral. La loi travail...
Benoît Hamon, c'était un candidat de centre-droit ?
Non, Benoît Hamon, ça a été un peu le soubresaut des électeurs socialistes qui ont voulu dire leur colère par rapport aux 5 ans du quinquennat. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit d'ailleurs pendant la primaire. Je ne comprenais pas l'intérêt d'aller dans cette primaire parce que ça ne pouvait que mal se terminer. Le Parti Socialiste n'est plus socialiste. Voilà. Et donc, moi, mon espoir, c'est que celles et ceux qui continuent à se revendiquer de gauche, écologistes au Parti Socialiste, partent. arrête, il faut que Benoît Hamon quitte ce parti et aille reconstruire avec d'autres, Jean-Luc Mélenchon mais pas que, une gauche qui voilà, redressera la tête et en effet mettra en place un logiciel politique qui sera très éloigné de celui du Parti Socialiste aujourd'hui.
Oui. Mais vous savez très bien que c'est une chimère. D'abord, on a bien vu comment ça s'est passé pendant la campagne présidentielle. Benoît Hamon a fait l'erreur stratégique de faire croire qu'il allait pouvoir aboutir à un accord avec Mélenchon. Tout le monde savait que c'était impossible. Jean-Luc Mélenchon n'en veut pas. Ils ne sont pas, il y a pas, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus d'accord entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon que entre Benoît Hamon et la frange gouvernementale du Parti Socialiste. Donc j'y crois pas du tout. En revanche, je pense qu'il faut faire une différence entre la mort du Parti Socialiste, ça je pense qu'en tant que institution, sur la mort des idées qui sont les siennes, sur l'existence d'une vraie social-démocratie, ça je crois pas. C'est un courant historique de la gauche. Ça dépendra aussi, à mon avis, de la réussite ou pas du quinquennat Macron, parce que s'il échoue, ça peut ouvrir un espace, d'autres espaces aussi plus dangereux, mais ça peut aussi rouvrir un espace de renaissance à la social-démocratie. Donc oui, le Parti Socialiste est mort, ses idées, pas forcément.
Rapidement, Baudon, j'ai dit, vous vouliez... Non, c'est ça, je vous voyais, non?
Non, je partage cet avis. Le problème, encore une fois, c'est que idéologiquement, il n'y a plus rien de commun entre ceux qui peuplent aujourd'hui la rue de Solferino. Rien. Et par conséquent, les électeurs en ont tiré les conclusions. La seule et vraie question, c'est est-ce que En Marche, à terme, sera le parti qui va se substituer définitivement sur un critère très simple qui est celui de la gauche libérale au Parti Socialiste.
La suite, en tout cas, ça sera le 11 et 18 juin prochain aux législatives. Merci beaucoup à Caroline Delazé de passer ce soir aux Informés de France Info. Merci Bruno, Roger Petit, Yannick Halimi, la une du Parisien aujourd'hui en France,
un
demain.
Un week-end aux aires de vacances.
Ah, bravo, c'est vrai, c'est pas faux. Et Paul Quignot, la une de l'Obs cette semaine.
Le phénomène Brigitte Macron.